Alors, je voudrais vous parler ce matin de la passion et de la croix, mais dans la vie chrétienne. Donc, vous avez eu une instruction sur la passion de notre Seigneur, mais là, comment finalement la retrouver, cette passion? Comment être unis à notre Seigneur Jésus-Christ? Le mystère central de la vie de Jésus, c'est la passion, c'est sa mort, c'est le don de sa vie pour nous. Et nous le savons, c'est le temps et le lieu de notre salut. Donc tout dépend de lui, tout dépend de Jésus-Christ, tout dépend de sa passion. Et nous le voyons hier dans la liturgie, nous allons par la liturgie retrouver les grands mystères de la vie de notre Seigneur. Mais je voudrais vous parler maintenant des occasions concrètes de retrouver notre Seigneur dans sa passion, dans le partage de sa passion, mais dans toutes ces petites occasions que nous avons et qui sont autant de rendez-vous, autant de rencontres avec la passion de notre Seigneur. Or, nous le savons, c'est la passion de notre Seigneur qui nous donne les mérites de Jésus-Christ. Les mérites ont été acquis. Ça y est, c'est définitif depuis le Vendredi Saint. Mais il faut que nous les recevions. Il ne suffit pas de dire « Jésus-Christ est mort pour tous les hommes » et donc, tous les hommes sont sauvés, l'affaire est réglée. Non, tous les hommes sont potentiellement sauvés, ils l'ont été, le fait du salut a été réalisé, c'est un fait, mais la réalisation pour chaque individu de ce salut n'est pas faite, en tout cas n'est pas faite pour ceux qui ne sont pas encore nés, et n'est pas faite pour ceux qui sont toujours sur cette terre, n'est pas définitivement faite. Donc il faut que chaque âme reçoive ce salut individuellement, par l'Église, dans l'Église, dans la vie liturgique, etc. Mais aussi, bien sûr, dans ces occasions quotidiennes que nous avons de vivre unis à la passion de notre Seigneur. Et c'est là que nous acquérons aussi, c'est par cette voie aussi que nous acquérons les mérites de Jésus-Christ, c'est-à-dire ses droits à une récompense céleste. La passion est donc, parce que nous sommes unis à cette passion depuis notre baptême, est donc une caractéristique de la vie du chrétien. On ne peut pas penser vie chrétienne sans un lien avec la passion, puisque nous sommes débiteurs de cette passion. Non seulement débiteurs parce que le Vendredi Saint, c'est cet acte, ce sacrifice de notre Seigneur qui nous a valu d'être sauvés, de pouvoir être sauvés, mais en plus parce que c'est dans la passion quotidienne, dans nos épreuves, dans nos souffrances, dans nos combats, que nous allons obtenir ces grâces de la passion. Donc on ne peut pas faire l'économie de la croix, et c'est pour ça que je vous citais hier notre Seigneur, donc, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas d'autre programme possible de vie chrétienne. Et à l'issue de cette retraite, vous allez retrouver la croix. Il n'y a pas de... Je ne tiens pas à vous restiez dans l'illusion. C'est pas parce que vous êtes peut-être sur un beau nuage actuellement. Le nuage ne va pas disparaître, mais il va un petit peu s'assombrir peut-être, retourner à des choses plus difficiles. Eh bien, tant mieux. Ça veut dire que le chemin avance et que les fruits vont tomber. Saint Paul aux Romains, chapitre 6, verset 3, nous dit « Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, car nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour mourir, afin que comme le Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions dans une vie nouvelle. » Je terminais hier en parlant de cette vie unitive dans le mystère de la résurrection et de tout le cycle pascal, et cette vie divine qui est répandue dans l'Église après Pâques et dans le temps de la Pentecôte, eh bien c'est ça, nous marchions dans une vie nouvelle. Mais pour marcher dans une vie nouvelle, il faut être mort à la vie ancienne. Pour parler d'un homme nouveau, il faut avoir fait mourir le vieil homme. Et c'est cela qui s'opère quotidiennement. N'imaginez pas que l'on puisse se dire, ça y est, c'est le nouvel homme, l'homme nouveau qui vit définitivement. Non, ce sera toujours un combat. On pourrait dire que le vieil homme ne meurt jamais. C'est ça le problème. Alors, il faut qu'il y ait ce combat. Et ce combat, je vous en ai déjà parlé, c'est la vie chrétienne. Donc, soyons au contact avec la passion de notre Seigneur. Cela s'opère, bien sûr, par les sacrements, mais je n'y reviens pas. Et cela s'opère par toutes ces ressemblances avec la passion de notre Seigneur qui sont dans notre vie. Et c'est cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Que ce soit celle qui s'impose à nous, ces circonstances désagréables, ces épreuves, ces souffrances, ces maladies, ces contrariétés, que ce soit celle que nous nous imposons, les pénitences, les mortifications que nous choisissons, que nous essayons de suivre. Voilà un petit peu toute cette panoplie de rendez-vous possibles avec la passion de notre Seigneur. Et il faut s'imprégner de cette passion parce que, encore une fois, c'est le lieu de notre salut. Et donc, c'est le lieu de rencontre de notre salut. Pour cela, je vous conseille de lire régulièrement, ça ne veut pas dire tous les jours, mais régulièrement, la passion de notre Seigneur. Vous avez quatre passions, dans les quatre évangiles, et vous les retrouvez dans votre missel, le dimanche des rameaux, le mardi saint, mercredi saint et vendredi saint. Donc vous avez les quatre passions, pas complètes, mais en tout cas, sinon vous allez directement dans votre Nouveau Testament. Mais vous avez donc ces quatre passions qui doivent être connues de tout catholique. On doit être habitué à ces épisodes de la vie et la mort de notre Seigneur. Mieux connaître donc notre Seigneur pour que, étant imprégné du texte, vous puissiez avoir régulièrement, on pourrait dire comme écho, dans votre vie, certaines paroles qui vous auront marqué. Si vous goûtez la parole de Dieu dans l'Écriture sainte, vous ne pourrez pas tout retenir, c'est sûr, mais vous aurez des phrases qui vous marqueront. Notez-les, par exemple. Un jour, ce sera l'une, et un jour, ce sera une autre. Eh bien, si vous les gardez en mémoire, si vous voulez repasser, elles seront utiles dans un moment précis où vous direz, bah tiens, c'est ce que notre Seigneur, c'est là je retrouve effectivement une circonstance où notre Seigneur a fait ça, et moi j'avais envie de faire autre chose, justement le contraire, eh bien je vais faire comme notre Seigneur, ou je vais parler comme notre Seigneur. Et c'est ce que je voudrais essayer de vous donner comme circonstance possible. Bien évident que j'ai fait des choix, donc ce n'est pas exhaustif. Mais mieux connaître la vie de notre Seigneur pour mieux pouvoir s'identifier en fonction des différentes facettes de notre vie. Et puis la pratique du chemin de croix. La pratique du chemin de croix qui nous habitue aussi à connaître par cœur ces grandes étapes de la passion de notre Seigneur. N'hésitez pas à en faire une résolution, non pas stricte et régulière, mais que le chemin de croix ne soit pas simplement une pratique du carême, c'est ça que je veux dire. N'ayez pas peur de faire un chemin de croix. Non. Et puis respectez la liturgie aussi, vous voyez, un chemin de croix durant le temps de Pâques, là pour le coup, ça n'est pas mauvais, mais respectez la liturgie. Ça peut se faire le vendredi, bien sûr, mais pas forcément tous les vendredis non plus. Encore une fois, que ces pratiques, que la lecture de l'Évangile, le chemin de la croix, ne soient pas des habitudes, des routines, mais soient au contraire des moments où vous réveillez en vous cet amour de Jésus crucifié. Alors, une fois que vous aurez cette connaissance plus profonde de notre Seigneur, de sa mort, de sa vie, de sa mort, eh bien, vous pourrez adapter en fonction de votre vie. Alors, premièrement, il y a des conditions générales qui sont à imiter. Ensuite, je verrai des conditions qui concernent le prochain, où nous pouvons retrouver la passion de notre Seigneur par rapport au prochain. Ensuite, des conditions qui nous concernent, donc vis-à-vis de nous-mêmes. Et enfin, des conditions qui touchent à Dieu. Et tout cela étant à chaque fois des rendez-vous avec le bon Dieu. Alors, les conditions générales, notre Seigneur nous l'a dit, je vous l'ai cité hier, c'est le renoncement. La passion de Jésus manifeste au plus haut point cette leçon de renoncement. Notre Seigneur a renoncé à tout dans sa passion. Il a renoncé déjà à tout dans sa vie, tout court, mais tout spécialement dans sa passion. Il a renoncé à ses biens extérieurs, mais là il n'en avait pas. C'était toute sa vie où il avait été pauvre. Renoncé aux biens du corps, et là c'est toutes ses souffrances où il a accepté d'être abîmé dans son corps pour réparer nos péchés. Il a renoncé à sa réputation. C'est un voleur, c'est comme un voleur qu'il a été condamné. Ça n'est pas une condamnation noble, hein, la croix, ne l'oubliez pas. C'est le châtiment des personnes les plus viles, des esclaves. Donc sa réputation, il l'a abandonnée, ses honneurs bien sûr aussi. Souvenez-vous qu'une semaine avant, c'était l'entrée triomphale à Jérusalem. Et quelques jours après, considéré comme le plus vil des hommes. Il a renoncé à sa volonté propre, on le voit dès le jardin des Oliviers, mais bien sûr tout au long de cette passion, tout au long de ces souffrances. Et voilà un renoncement total. La seule chose à laquelle nous ne devons pas renoncer, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas renoncer, c'est à notre salut. Et il est hors de question d'être prêt, cela a existé, même personne des hérésies ou des gens qui n'ont pas compris justement, d'être prêt à renoncer au ciel pour peu que ça sauve des âmes. Alors parfois chez les saints on a des formules un peu ambiguës, mais ils avaient compris, ces saints, que ce n'était pas... C'était pas ça qu'il demandait, mais c'était si même c'était possible ça, alors il le ferait. Non, mais il y a eu des gens qui ont fait l'erreur d'être prêts à renoncer, vouloir être en enfer si ça pouvait sauver des gens. Non, c'est ne rien comprendre à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour, c'est aimer Dieu. L'enfer, c'est détester Dieu. Donc c'est incompatible de dire je veux vous aimer en pouvant vous détester. Ça revient à ça. Donc la seule chose à laquelle nous ne devrons pas renoncer, c'est notre salut. Ça met donc la borne à atteindre. Si le grain de froment tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Saint Jean, chapitre 12, verset 24. Il faut donc se quitter soi-même et produire ses fruits. C'est ça, la vie du chrétien. Chercher à sauver tout ce que notre Seigneur a voulu abandonner, c'est faire fausse route. Si on accepte ce renoncement, cet abandon de tous nos biens, alors nous sommes sûrs de trouver, d'être enrichis de Dieu. Cette béatitude, bienheureux les pauvres en esprit, car ils posséderont le royaume des cieux, ils possèdent le royaume des cieux, c'est le rappel chrétien, c'est le rappel que nous devons chercher à être riches, mais pas des biens faux, pas des biens périssables. La vie chrétienne, le christianisme, n'est pas une invitation à la pauvreté totale. Elle est une invitation et une incitation à la pauvreté de ce qui ne vaut pas la peine. Ça n'est pas la même chose. Il faut désirer être riche des biens divins. Ça n'est pas... Et ça, c'est la vraie pauvreté. Parce que les biens divins ne se trouvent pas dans les biens qui passent. Donc on se séparera, on abandonnera les biens qui passent pour les biens divins. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et me suive, c'est la phrase que nous retrouvons aussi chez saint Matthieu, chapitre 16, verset 24, qui est un autre lieu de la même phrase que nous avions chez saint Luc hier. Voilà, suivre Jésus, c'est ce que nous devons faire. Nous avons cet épisode du jeune homme riche qui avait accompli la loi, qui faisait le bien et qui demande à notre Seigneur ce qu'il doit faire en plus. Notre Seigneur lui a dit tout ce qu'il fallait faire, il dit « je l'accomplis depuis que je suis jeune, depuis mon enfance ». Eh bien, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et vous savez que le jeune homme se décourage à l'idée de devoir abandonner tous ses biens et il ne suit pas notre Seigneur. Mystère d'un appel à une sainteté plus élevée à laquelle l'âme ne répond pas. Ce que faisait ce jeune homme était bien. Et ce que notre Seigneur voulait qu'il fasse, c'était un plus grand bien, une plus grande sainteté, une invitation à être au ciel de façon plus parfaite. Et notre Seigneur était prêt à lui donner, bien sûr, les grâces pour le faire. Et l'âme a peur de ce plus grand bien. L'âme n'ose pas ce plus grand bien parce qu'elle est attachée à toutes ses richesses. Renoncement, condition indispensable pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Renoncer à notre volonté propre pour faire celle de Dieu. Voilà. Deuxième condition générale pour être uni à notre Seigneur dans sa passion, et vous voyez que tout cela, c'est concret dans notre vie, c'est un renoncement qui doit être quotidien, dans des petites choses, mais quotidien. C'est l'humilité. L'humilité, bien sûr, cet abaissement du Verbe incarné dans la passion est évidemment une source pour nous, un modèle absolu pour comprendre l'importance de l'humilité dans la vie du chrétien. L'orgueil est l'adversaire par excellence de la perfection parce que il est ce principe qui veut faire sans Dieu, qui veut agir sans Dieu, qui veut s'élever sans Dieu. Et donc, il y a forcément une opposition totale à la vie de perfection. Il y a ce refus du « suis-moi ». Quand on suit quelqu'un, on dépend de lui. On va où il va. On fait ce qu'il veut qu'on fasse. L'orgueil refuse le « suis-moi ». Et pour cela, dans notre vie concrète, n'oublions pas de regarder la misère de l'homme. Cet homme qui se croit plein de droits, plein de libertés fausses, est misérable. Ne nous cachons pas la vue. Il est misérable. Et puis nous-mêmes, nous sommes encore mieux placés pour le savoir que l'homme est misérable. Il suffit de nous regarder nous-mêmes. Et il faut regarder ces abaissements de Jésus dans la passion pour mieux comprendre, puisque c'est un abaissement que Dieu a accepté pour réparer nos péchés d'orgueil, nos péchés en général. Cela veut dire que si Dieu s'abaisse si bas, cela montre l'abaissement consécutif au péché d'orgueil. Si Dieu descend si bas, c'est que l'homme est très bas. Dieu vient récupérer l'homme là où il est. Ce n'est pas par plaisir ou par que Dieu s'abaisse. C'est parce que il veut nous montrer où nous sommes. Et nous sommes tellement bas que Dieu est obligé de descendre bas, si je puis m'exprimer ainsi. Et toute la passion nous montre ce qu'a valu le péché de l'homme. Et il faut donc imiter Jésus dans son humilité et accepter à notre tour d'être traité pour ce que nous sommes, nous. Autant il est intolérable de voir Jésus traité comme il a été traité, de le voir moqué, bafoué, insulté, lui qui est Dieu, lui qui est roi, lui qui est innocent, lui qui a fait du bien à tous ces gens qui viennent lui cracher dessus. Autant pour nous, il est normal que nous subissions ce que nous subissons comme injure, comme contrariété, etc. Parce que nous, nous ne valons rien. Nous sommes même coupables de plein de péchés. Donc, c'est normal que nous subissions des châtiments. Savoir se convaincre de notre néant, de notre faiblesse profonde, de notre misère, de nos péchés, et donc savoir recevoir par imitation ce que notre Seigneur a reçu sans se rebeller. Et donc, en comprenant que c'est pour nous une source de réparation. C'est pas pour le plaisir d'être insulté ou d'être objet de contrariété, c'est parce qu'on sait que par là, nous allons restaurer en Jésus-Christ ce que nous avons détruit par nos péchés. C'est la rédemption. La mortification, enfin, comme condition générale, et là vous comprenez bien quand on parle de la passion, nos petites mortifications sont souvent dérisoires, mais elles ne sont pas sans valeur. Et vous le savez que la valeur d'une pénitence, d'une mortification qu'on s'impose, ne dépend pas de l'aspect matériel de cette mortification, mais du cœur qu'on y met, et de la volonté de partager avec notre Seigneur une contrainte, une restriction de quelque chose qui nous faisait plaisir, qui nous satisfaisait. Je rappelle qu'on ne fait que des mortifications que sur des choses qui sont bonnes. Il n'y a pas de mortification par rapport au péché. Le péché n'est pas... On ne doit pas le commettre. Donc on ne peut pas se dire « je ferai un peu moins de péché, ce sera ma mortification ». Alors, mortification corporelle. Corporelle qui est indispensable pour tous. Si on a des problèmes de santé, si on a des problèmes qui... Il ne faut pas prendre des mortifications qui mettent en plus en danger. Donc là, c'est une question de bon sens. Mais il y a tous, pour tous, des possibilités de se débrouiller pour les mortifications corporelles. Pour une personne qui travaille énormément, il ne s'agit pas de réduire la quantité de nourriture. Pour une personne, pour une mère qui est enceinte ou qui allaite, bien entendu, il ne faudra pas faire n'importe quoi, etc. Mais on pourra toujours se débrouiller pour se priver d'un bon goût, par exemple, tout en gardant la quantité. Vous voyez, c'est toujours possible, y compris sur la nourriture. Je prends cet exemple parce qu'il est universel. Mais on peut aussi faire des pénitences sur des loisirs. Sur des choses, ça ne veut pas dire qu'on supprime tous les loisirs, mais on peut en réduire la quantité. Si elle était désordonnée, ben là, il faut corriger de toute façon. Mais même si elle n'est pas désordonnée, on peut de temps en temps se priver d'une chose qui nous fait plaisir. Vous voyez, ça ne met pas en jeu notre santé et ça ne fait pas grand chose dans notre vie, mais c'est à faire, c'est à faire. Et ne pas attendre le temps du carême ou de l'Avent pour faire ce genre de limitation. Il y a une valeur d'expiation et il y a une valeur de prévention. La mortification est puissante pour nous aider à ne pas retomber dans une faute. Et on peut, si on a des fautes dont on n'arrive pas à se défaire, demandez à Dieu que telle ou telle mortification que vous êtes prête à faire, soit destinée, si possible, au combat de ce défaut. N'hésitez pas à choisir une mortification simple, discrète, facile à faire, qui puisse être destinée à réparer, à combattre tel ou tel défaut. Donc, il n'a rien à voir avec le défaut. Alors évidemment, si le défaut c'est la gourmandise, là, ce sera une pénitence, si elle est alimentaire, qui vous aidera à ne pas retomber. Mais ça peut très bien être une pénitence alimentaire qui soit pour un défaut qui n'a rien à voir avec la tempérance. En tout cas, la gourmandise. N'oubliez pas ce combat qu'il y a entre l'esprit et la chair. Saint Paul l'avait cité. Je vois dans mes membres, je ne vais pas citer cette phrase-là, mais c'est la même idée. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de ma raison et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est Saint Paul qui parle, Romains 7, 23. Donc il ne s'agit pas de détruire notre corps, il nous a été donné par Dieu, il est hors de question, il s'agit de le dominer, de le remettre à sa place. Sans pénitence, sans mortification, personne ne peut prétendre maîtriser ses passions et son corps. C'est faux. Ou alors, il y a un problème de santé qui ferait qu'il y ait une espèce d'insensibilité générale, et qu'on n'aurait pas de mal du tout à contrôler ce corps. On voit même les plus grands saints, et pas au début de leur vie, mais même parfois à la fin, peuvent avoir le corps qui se rebelle, les passions qui se rebellent encore. Donc, vous voyez que c'est un combat de tous les instants, et c'est la pénitence corporelle qui est la réponse, une réponse, pas la réponse unique, mais une réponse. N'oubliez pas que ça, ce ne sont pas des inventions, c'est notre Seigneur qui l'a dit, lorsqu'il donne la leçon aux apôtres après qu'ils ont raté de chasser un démon dans un possédé. Il dit ce genre de péché ne se combat que par le jeûne et la prière. Le jeûne, c'est la pénitence corporelle. Alors tout cela est à l'opposé des idées de notre temps, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne parle que de suivre sa nature, d'épanouissement personnel, de fuite des souffrances sous toutes les formes. Vous voyez qu'on est à l'opposé. La souffrance n'a plus de valeur aux yeux des hommes de notre temps, c'est même l'inverse. On la critique, on la supprime sous toutes ses formes. Il ne s'agit pas de vouloir l'entretenir, bien entendu. Il s'agit de, lorsqu'elle est inévitable, de l'accepter et d'en comprendre le sens. Ça n'est pas la même chose. Et donc, si on en comprend le sens, c'est ce sens de rédemption. Donc, ne la fuyons pas lorsqu'elle est inévitable. Et c'est une occasion véritable de retrouver notre Seigneur dans sa passion, dans son don de sa vie pour nous. Alors, la mortification, je vais parler des aliments, mais ça consiste pas essentiellement dans des choses terribles et effroyables. C'est pas d'abord des cilices, des pointes de fer, des ceintures clouées, je ne sais quoi, ou faire un 100 mètres dans un champ d'ortie. Hein, mais il y a véritablement d'abord, la plus grande des pénitences, c'est certainement de faire ce que Dieu nous demande dans ses commandements, et ce que l'Église nous demande dans ses commandements. Vous voyez, on a déjà là les deux tables de la loi plus les commandements de l'Église qui vous donnent pas mal de sources de mortification si vous le faites strictement. Mais évidemment, comme on se dit, bah oui, mais ça c'est pour tout le monde, moi il me faut des choses perso. Alors, faites d'abord ce qui est pour tout le monde, on verra après. Mais c'est vrai que se connaissant soi-même, on a effectivement des défauts qu'il faut corriger soi-même, et là, il y a peut-être des points, des pénitences à s'imposer soi-même, ça c'est sûr. D'où vos résolutions. Hein, vous avez une partie de défauts, correction des défauts, etc. Ben, c'est vrai que ça, c'est appliqué à vous. Mais n'oubliez pas ces grandes demandes que Dieu attend de vous et auxquelles il faut répondre. Mortification du goût, j'en ai parlé. Mortification de la langue, c'est vrai qu'il y a beaucoup de péchés par la langue. Et donc, cultiver le silence, c'est vrai que c'est souvent un moyen de réduire ces péchés. Mortification dans nos jugements. Nous jugeons trop. Et quand on dit juger, souvent on passe à la phase finale, on condamne. Donc, sans rémission, sans circonstances atténuantes. Ça, c'est bien souvent notre cas. Et tout cela se fait souvent dans les paroles, mais même dans l'esprit. Alors, déjà exclure dans un premier temps les paroles. Après, on travaille dans l'intérieur. Et pour cela, pensez à notre Seigneur sur la croix, qui pardonne à ses pécheurs. Mortification de la volonté propre, faire plutôt ce qu'on nous demande de faire que ce qu'on a envie de faire. Mortification dans le confort. On arrive généralement dans notre société à un excès de confort qui amollit les volontés. C'est vrai que c'est bien pratique de, et une fois qu'on a dit ça, on rajoute des objets, des raccourcis, des choses plus confortables, et on perd le sens de l'effort, de la difficulté, de la patience. Souvent, ces progrès techniques qui sont réels font faire plus vite un certain nombre de choses. Et on oublie que le travail est aussi dans le temps. Et ça nous fait travailler la persévérance. Mortification dans le devoir d'État. Bien faire son devoir d'État, même s'il est répétitif, même s'il ne nous plaît pas. Ça arrive que le travail ne plaise pas, par exemple, ou les tâches domestiques, qu'elles soient tellement répétitives et lourdes, qu'elles soient lassantes. Voilà des sources possibles de mortification. Conditions concernant le prochain maintenant. Renoncer à se venger. Nous avons la parole de notre Seigneur, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la première parole que notre Seigneur a dite sur la croix. C'est la preuve que ce message est extrêmement important. Vous imaginez bien que notre Seigneur a peu parlé sur la croix. Il y a ces fameuses 7 paroles de Jésus sur la croix. La première a un sens tout spécial. C'est Dieu qui parle, ne l'oublions pas. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il donne son pardon, sa miséricorde, à ceux qui sont en train de le mettre à mort. Eh bien, nous aussi, nous devons avoir ce souci profond de renoncer à nous venger. Pourquoi je dis renoncer à se venger et non pas pardonner à ceux qui nous ont offensés? Parce qu'on ne pourra pas pardonner à ceux qui nous ont offensés si on n'a pas avant pris cette habitude, enraciné cette habitude de renoncer à se venger contre ceux qui nous ont fait du mal. C'est pour arriver progressivement. Premier point, renoncer à se venger, c'est certainement l'un des plus grands efforts de notre vie chrétienne, et en même temps l'une des plus grandes gloires de la religion catholique, du véritable amour. La vengeance n'appartient qu'à Dieu. C'est Dieu qui nous le dit. Et souvent dans notre vengeance, sous prétexte de justice, puisque la vengeance en soi, ça ressortit de la justice, eh bien, il y a trop d'orgueil, il y a trop de haine, il y a trop d'amour-propre froissé qui veut rendre l'appareil. Donc c'est rarement de la justice. Il y a un aveuglement, il y a une passion désordonnée, et il faut renoncer à cela. Ce sont les pouvoirs publics dans une société qui sont chargés justement de cela. Et c'est sain, et ça hyène, que ce soit des personnes chargées de la chose qui fassent la justice. Alors il peut y avoir des désordres même dans la justice, il peut y avoir des états injustes, oui, mais ça n'empêche que on voit bien dans cette organisation même civile, qui est naturelle, qui est voulue par Dieu, donc elle a été promue par Dieu, et bien que ce ne soit pas ceux qui ont été lésés qui se vengent, qui se fassent justice eux-mêmes. Sinon, c'est dévoyé. N'oubliez pas ces deux béatitudes et puis cette belle phrase que on a commentée l'autre jour. Je suis doux et humble de cœur. Notre Seigneur nous redit cela. Et puis aussi, heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Voilà, renoncer à se venger. Deuxième cran, oublier les injures. Et là, nous avons cette belle phrase qui décrit notre Seigneur alors qu'on l'a insulté, ou on lui a parlé avec insulte. Et Jésus tachebat, et Jésus se taisait. Lui qui est Dieu, lui qui sait tout, lui qui reconnaît parmi ses bourreaux peut-être des personnes qui l'ont salué respectueusement le dimanche des rameaux, qui peut-être à qui il a guéri, ou à qui il a guéri des membres de sa de leur famille, etc. Jésus se tait. Il ne veut pas que nous cherchions à garder en mémoire ces peines, ces injustices dont nous pouvons être victimes. Il veut le silence en réponse au mal qui nous est fait. Saint Luc nous dit « In patientia vestra possidebitis animas vestra » « Dans votre patience, vous posséderez vos âmes. » C'est la vertu de patience. Et c'est la meilleure des médecines contre notre amour propre. Le silence, la patience. Et c'est aussi un gage pour nous auprès de Dieu. Tout ce que nous aurons accepté de subir de la part du prochain nous sera remis pour ce que nous aurons fait contre Dieu ou le prochain. Nous, en remettant les dettes à notre prochain, nous sommes capables de recevoir une remise de dettes de nos fautes. Et c'est cela qu'il ne faut pas oublier. De plus, la patience, le silence, est véritablement un exemple qui va fermer la colère devant nous. C'est l'exemple de Saint François de Sales, qui était lui-même coléreux, mais qui a travaillé toute sa vie contre la colère, et qui, un jour, se fait insulter par un homme, parce qu'il avait dû prêcher, ou je ne sais plus, il avait dit quelque chose qui n'avait pas plu à cet homme. Et cet homme était un seigneur, quelqu'un qui se croyait la possibilité d'en remontrer à... Je pense qu'il était évêque déjà. Et Saint François de Sales se tait, ne dit absolument rien, écoute tous les mensonges, les calomnies, les injures qu'il sort. Et l'autre se retrouve, comme c'est le cas, il n'y a plus rien à quoi s'agripper, parce qu'il ne répond pas. On ne va pas parler devant un rocher où c'est... se déployer sa colère sur un rocher, non, ça sert à rien. Donc il s'en va, et puis la grâce l'a touché, et il comprend qu'il a fait une énorme bêtise, et il se met à pleurer, il revient voir Saint François de Sales, et puis il lui dit, mais comment vous avez pu supporter tout ce que je vous ai dit? Et Saint François, je ne sais plus exactement la réponse, mais lui dit qu'il commence à lui répondre, parce que lui-même aurait peut-être été un peu plus loin. Et l'homme lui répond qu'effectivement, de toute façon, il était prêt à le tuer quasiment dans sa fureur. Donc la moindre parole, il n'aurait même pas écouté le sens de la parole, mais il en aurait profité pour faire violence contre lui. Donc Saint François a échappé belle. Et Jésus tachebat. Retenons bien cette belle phrase de l'Évangile. Et enfin, et là on arrive au cran sublime, si difficile à atteindre et si propre au christianisme, aimer ses ennemis. Voilà le sommet auquel notre Seigneur nous invite. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Pour moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Voilà ce que notre Seigneur nous enseigne. Alors, il arrive fréquemment qu'on se dise « Mais moi, je n'arrive pas à oublier les offenses. Moi, je ne suis certainement pas prête à aimer mes ennemis. » Il faut y travailler et ne pas confondre pardon et oubli. Nous avons une mémoire et il n'est pas possible de détruire notre mémoire, et heureusement, puisque c'est une de nos puissances qui nous aide à faire plein de choses. Et donc, on peut très bien ne pas oublier, mais ne pas en vouloir. C'est ça, deux choses qu'il faut bien distinguer. Ce n'est pas parce qu'on se souvient du mal qu'on n'a pas pardonné. Et ce n'est pas parce que on ne s'en souvient pas qu'on a pardonné. Donc n'ayons pas peur de cette mémoire, ayons peur d'en vouloir. C'est ça qu'il faut craindre. Et c'est cela que notre Seigneur nous invite à passer outre, par l'amour des ennemis. Voyons dans le mal qu'ils nous ont fait, le mal qu'ils se sont fait. Alors ça, on a du mal, parce qu'on se dit, bah oui, mais moi j'en suis plus victime, j'avais rien fait, et si ça lui fait du mal à son âme, parce qu'il menace son salut, etc., bah ça le regarde. Mais regardez plutôt ce drame qui se joue dans une âme qui, parce qu'elle fait du mal, et parfois gravement, se met en danger de mort éternelle. Alors que nous, le mal qu'elle nous a fait, non seulement ne nous fait rien, strictement, ça nous fait du mal à notre amour propre, à nos biens éventuellement, mais ça ne peut être même que l'occasion d'un plus grand bien si nous acceptons cette épreuve. Donc nous avons tout à y gagner. Et même si nous perdons un certain nombre de biens extérieurs, fondamentalement, dans les biens essentiels, nous pouvons gagner à ce mal qui nous est fait. Mais cette personne qui nous a fait du mal, elle perd tout, elle perd l'essentiel. Et ça ne nous émeut pas. Ça ne nous fait rien de se dire qu'une âme est en train de se perdre, peut-être, si c'est grave en tout cas, comme mal. Voyez le renversement qui doit pouvoir nous faire aimer le prochain. Aimer non pas qu'il nous fasse du mal, mais aimer une âme qui est en train de se damner peut-être et qu'il faut sauver. Donc avoir cette miséricorde sur une âme qui est en danger. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les gentils? Ceux-ci ne le font-ils pas aussi? Notre Seigneur qui parle dans le discours sur la montagne, chapitre 5, verset 46. Et puis supporter les persécutions, cela peut arriver. Ceux qui veulent vivre saintement, eh bien, subiront persécution, nous dit saint Paul. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors il y a des persécutions ouvertes, il y a des persécutions insidieuses, latentes. Nous sommes plutôt actuellement, en tout cas en France, dans ce deuxième type, persécution latente, dissolvante, où on dissout les mœurs, où on dissout la résistance, où on dissout la doctrine, on use les gens lentement. Et le fruit tombe, alors qu'il n'y a pas eu de persécution sanglante en France depuis un certain nombre de temps. Mais c'est tellement plus efficace d'empoisonner une source que d'aller mettre un poison dans chaque verre à boire. Et ça marche. Ça marche dans l'éducation, ça marche dans les matraquages médiatiques, ça marche dans les pratiques de vie, les modes de vie qui sont source de modification des comportements et des intelligences. Si on vous habitue à faire quelque chose, finalement, votre intelligence s'habituera à cette chose. Alors que si on vous dit, on va vous expliquer par A plus B qu'il faut faire cette chose, donc on travaille sur votre intelligence, vous serez peut-être suffisamment résistante pour ne pas le faire. Mais si on vous dit, si on ne vous dit pas, mais si on vous incite à faire, et que tout le monde fasse, et qu'on en incite tout le monde à faire, eh bien, on y arrivera beaucoup plus facilement. C'est une psychologie de l'homme qui est comme ça. C'est ce qui marche pour plein de choses, dans tous les domaines, et y compris dans le domaine religieux. C'est comme ça qu'est passée la nouvelle messe. On ne vous a pas fait des grands discours pour dire « il faut désormais être écuméniste », parce que vous avez dit « bah non, c'est dans cet écuménisme nouveau, c'est pas la foi catholique, donc je refuse ». On vous a mis une messe qui était écuméniste, qui gommait tous les aspects catholiques pour s'ouvrir aux autres religions, essentiellement au protestantisme. Et puis vous avez, enfin beaucoup ont absorbé la chose sans se rendre compte, et sans malice, et sans cause, sans responsabilité de leur part, sans culpabilité de leur part. Mais ils ont pratiqué la chose. Et puis à force de pratiquer, ben on est devenu écuméniste, ou on est devenu plus grand chose, et on a abandonné. La pratique, la praxis, disent les marxistes, est bien plus efficace que la théorie qui vous fait des grands discours. La compassion, Envers le prochain cette fois donc. Envers le prochain, nous avons la compassion. Durant sa passion, notre Seigneur a essayé de recevoir des marques de compassion. Au jardin des Oliviers, il en attendait de la part des apôtres, il n'en a pas eu. Et lui-même, à l'inverse, en a donné auprès des femmes de Jérusalem. La Vierge Marie, elle, a été l'unique source de compassion que Jésus a reçue, c'est à la fin. Et évidemment, notre Seigneur a accepté, bien sûr, ce témoignage de sa mère au pied de la croix. Elle est le modèle de compassion. C'est elle qui doit être notre guide pour avoir pitié nous-mêmes des besoins des autres. Notre Seigneur s'est montré compatissant envers tous, durant sa passion, envers ses apôtres, lors de son arrestation. Il veille à ce que personne ne soit arrêté, hors lui. Envers les femmes de Jérusalem, je l'ai dit, envers sa mère et saint Jean, à qui il donne cet échange de maternité, de filiation, avec un sens aussi bien plus profond, de, surnaturel, de, en faisant de sa mère la mère de tous les hommes. Et puis envers tous les pécheurs, nous tous. Il y a cette belle phrase du psaume 68, « J'ai cherché un homme qui s'attrista avec moi, et nul ne s'est rencontré. J'ai cherché quelqu'un pour me consoler, et je n'ai point trouvé. » Notre Seigneur connaît ce besoin que nous avons de nous épancher, et il a incité tous les chrétiens à accepter que d'autres épanchent leur misère sur nous, et que nous ayons ce souci d'écouter la misère des autres et de vouloir la guérir, si l'on peut, l'aider. Ô vous qui passez par ce chemin, soyez attentifs et voyez s'il est une douleur semblable à la mienne. Une phrase qui revient souvent dans la Semaine Sainte, c'est tiré de Jérémie, du Traîne. Bienheureux les miséricordieux, car eux-mêmes obtiendront miséricorde. Me concernant, j'irai plus vite, évidemment, je suis pris par le temps, mais je m'attendais. Pensons à la mort. Voilà un moyen d'être uni à notre Seigneur. Mon Père, je remets mon âme, mon esprit entre vos mains. Cette parole de la passion de notre Seigneur doit nous rappeler que la mort nous attend, mais qu'elle n'est qu'un début pour une vie nouvelle, et cela doit nous aider à avancer avec confiance sur cette heure qui est terrifiante pour la nature, ne le nions pas. Nous avons aussi la crainte du jugement. Voyons ces larrons qui sont autour, il y en a un qui insulte, l'autre aussi, puis finalement il est touché par la grâce. Ne crains-tu donc pas Dieu, toi non plus, condamné que tu es au même supplice? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais lui, il n'a rien fait de mal. Nous avons fait du mal, et nous devons craindre, non pas d'une crainte qui va nous empêcher d'agir sur terre, mais d'une crainte qui va nous inciter à faire le bien sur terre. Voilà, comme cette parole du bon larron. Crainte de l'enfer également. Craignons celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. C'est uniquement celui-là qui doit être craint. Voilà encore des pensées qui peuvent être nourries à l'occasion de la passion, des paroles de la passion. Et puis ces conditions qui touchent à Dieu, et je termine par cela, ce désir de la vie éternelle. Et là c'est encore le bon larron qui nous le donne. « Seigneur, souvenez-vous de moi lorsque vous serez parvenu dans votre royaume. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà notre espérance, être avec Jésus au ciel, avec la Sainte Vierge, avec les saints. Et que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Nous retrouvons finalement au moment crucial de la mort de Jésus-Christ, avec la parole du bon larron, le principe et fondement de notre vie. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Qu'est-ce que j'aurais fait de cette vie qui m'a été donnée si je n'ai pas gagné le ciel au bout de cette vie? Alors cette joie des saints doit se nourrir, cette joie que partagent déjà les saints, doit se nourrir pour nous ici-bas d'une grande confiance. Nous avons ce modèle, ces modèles innombrables de sainteté réussie et avec des chemins totalement variés, des difficultés réelles. Eh bien, nous aussi, nous sommes invités à cela. Il n'y a pas de raison que, puisque Dieu nous donne tant, il ne veuille pas achever sa course. Pensez bien à cela. Lorsque Dieu commence une œuvre, il veut l'achever. Dieu a commencé une œuvre de conversion dans votre âme, peut-être, à l'occasion de cette retraite. C'est possible. Toute retraite est une conversion, de toute façon. Eh bien, il veut l'achever. Ne vous dites pas, ce sera trop dur, je n'arriverai pas à mettre en place ces résolutions, à les suivre, à abandonner telle ou telle chose que je sais être mauvaise dans ma vie. Si Dieu vous a fait venir ici, si Dieu vous a guidé, illuminé durant cette retraite, il veut continuer ce travail de sainteté. Mais ce travail de sainteté, il faut le continuer avec lui. Et ce sera dans la passion, dans cette rencontre quotidienne avec la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous rendons à la chapelle.